Mesdames, messieurs, la connaissance de l'histoire ne nous préserve pas du pire.
Vienne et le Turc.
Ils veulent la guerre sainte en Europe. Demain, ils attaqueront Vienne, Varsovie et toute la chrétienté. Ils veulent faire boire le chevaux dans les fontaines des Roms.
En fait, la chrétienté finissante commençait à être brisée par la réforme protestante, mais l'Europe, qui commençait, elle, à se chercher, fut d'abord conçue sur le mode défensif. C'était un espace qu'il fallait protéger du Turc qui allait de l'avant. À la République de Venise, il disputait avec de plus en plus de succès le contrôle des îles au large de la Grèce, et sur terre, il occupait jusqu'à la plaine hongroise. Contre lui, c'était toujours un peu les mêmes acteurs qui se retrouvaient à la manœuvre, chauffés par le pape qui se faisait un devoir de maintenir la puissance de croisade. Le roi de France se tenait souvent dans une sorte de neutralité, et c'était sur les pays qui se tenaient, eux, aux avant-postes, qu'il fallait faire porter l'effort alors qu'ils n'étaient que de taille moyenne. Parmi eux, les souverains de la maison d'Autriche. Par deux fois, Vienne est assiégée en 1529, plus dangereusement encore en 1683. La ville ne sera sauvée qu'avec l'appui d'une armée de renfort dans laquelle on comptera 25 000 Hongrois et autant de Polonais. Autriche, Hongrie, Pologne, c'est étrange de voir s'esquisser de nouveau au XXIe siècle ce rapprochement. En fait, la Pologne plus tard connaîtra un destin séparé et, en revanche, la fameuse couronne de Saint-Étienne de Hongrie sera récupérée dans les dernières années du XVIIe par les Habsbourg. Ils construiront alors un nouvel empire de grande dimension. Vienne deviendra capitale-mère, carrefour. Elle garde cependant enfoui en elle le souvenir de la ville frontière menacée qu'elle fut, et peut-être ce passé rejoue-t-il aujourd'hui.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Marie-Elisabeth Ducreux, bonjour.
Bonjour.
Grande spécialiste des pays de l'Europe centrale. Vous avez travaillé sur l'Empire austro-hongrois, mais en partant des royaumes constitutifs plutôt que du centre, Vienne. Alors cette phrase qui termine mon chapeau, peut-être ce passé rejoue-t-il aujourd'hui ? S'en méfier quand même.
Oui, il faut s'en méfier, parce que ce qui rejoue aujourd'hui, c'est les tentatives parfois de justifier des politiques ou des valeurs par rapport à un passé, en particulier je pense à Viktor Orban en Hongrie, à l'idée que ils savent ce que c'est que l'islam parce qu'ils ont été occupés par les Turcs pendant un siècle et demi. Mais en réalité, ça c'est ce qu'on appelle les usages de l'histoire, c'est l'instrumentalisation de l'histoire, parce que c'est un sentiment construit, l'identité hongroise.
L'histoire n'explique pas tout, certainement, Marie-Elisabeth Ducreux. Je vous propose qu'on commence par le XVIe siècle. Milieu du XVIe siècle, l'Empire ottoman est à son zénith, on peut dire ça. Hein. Soliman le Magnifique. Les Turcs ont une fâcheuse réputation parce qu'ils sont infidèles, parce que le sultan est un despote et ils font tout à l'envers. Ils écrivent de droite à gauche, au lieu de décapiter les gens, ils les empalent, etc. Excusez-moi d'être dans les clichés à la Orban.
Non, mais je crois qu'effectivement, là, si on veut vraiment travailler sur les échanges ou les affrontements entre l'Empire ottoman et l'Europe chrétienne, mais l'Europe et les souverains européens, c'est un peu réducteur de parler, parce que d'autres souverains que les d'autres pays, empaler ses adversaires, les Moldaves, les Valaques et quelquefois même les Hongrois l'ont pratiqué aussi.
Alors nous sommes en Hongrie ici, les armées de Soliman avancent, un son avec une version Arte, puis une version d'un cinéaste yougoslave, Vatroslav Misa, et ce sont toujours quand même les mêmes cruautés qui sont dénoncées.
À l'avant-garde de l'armée turque, les Akinchi, pillant, violant et brûlant tout sur leur passage. Les femmes et les enfants capturés par les Akinchi sont réduits en esclavage par l'armée turque.
En voilà d'autres. Ils ont l'air forts.
Quant aux enfants, ils sont tous bien plantés sur leurs jambes, en bonne santé. Aussi, avec l'aide d'Allah, nous pouvons espérer avec l'âge en faire d'excellents guerriers.
La plupart des hommes sont décapités sans autre forme de procès et l'on brandit leurs têtes empalées sur des pieux en guise de trophée. Le sort subi par les paysans préfigure le pire pour Vienne.
Le cinéaste yougoslave en veut beaucoup aux Turcs de l'occupation de Belgrade, 1521. Le siège de Vienne a été mis en échec, mais en 1541, Buda devient ottomane. Bud des pestes, c'était deux villes différentes. Alors, vous allez encore me corriger, je sens ça, Marie.
Je ne vous corrige pas, non, ce n'est pas du tout mon intention. Alors, les Turcs sont arrivés en Hongrie en 1526. Il y a la fameuse bataille de Mohács, où le roi Louis Jagellon, le roi de Hongrie et de Bohême, a combattu avec les armées de ces deux royaumes, d'ailleurs. La Hongrie aux premières loges, mais il avait aussi des bataillons venant des autres pays de la monarchie. Donc la Bohême et la Hongrie. Et le roi Louis II Jagellon est mort à Mohács. En fait, il n'est pas mort pendant la bataille, mais il s'est noyé dans les marais. C'est malheureux. Et à partir de là, son épouse était la sœur de Charles Quint. Et à partir de là, un Habsbourg s'est présenté à l'élection pour devenir roi de Bohême et roi de Hongrie. Donc à partir de 1526, vous avez un souverain Habsbourg en Hongrie et vous avez aussi, les Turcs sont allés jusqu'à Buda et même au-delà, mais ils se sont retirés.
Et comment les Habsbourg gèrent-ils le glacis, le limès, l'espace dégradé, là, la partie de la Hongrie occupée, l'autre qui ne l'est pas.
C'est effectivement très compliqué. C'est d'abord une question d'argent. Et pour pouvoir se défendre contre les Turcs, d'argent et de fortifications, et d'entretien des fortifications. Pour pouvoir se défendre contre les Turcs, il faut effectivement pouvoir avoir des financements. Et c'est peut-être une des raisons d'ailleurs de la création d'organes centraux de la monarchie des Habsbourg, de Vienne, le Conseil de guerre et la Chambre des comptes. La Chambre existait avant, mais là, elle a été étendue à tous les autres pays. Bon, d'une part, il faut donc de l'argent, et c'est là aussi qu'on va lever, qu'ils vont lever, ils sont aussi empereurs du Saint-Empire, et ils vont lever un impôt turc dans l'Empire. Dans l'Empire, c'est-à-dire dans l'Allemagne, dans l'Allemagne jusqu'aux Pays-Bas. Voilà. Bon, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce ne sont pas eux qui sont en contact quotidien avec les Turcs. Ce sont bien les voisins, c'est-à-dire les Hongrois. Alors, ils sont occupés par les Turcs, mais pas comme, par exemple, Belgrade, enfin la Serbie, la...
C'est une occupation dégradée.
Non, mais dans tous ces pays, il y a plusieurs types d'occupation, de gestion, on va dire, de gestion des pays, des territoires. La Transylvanie, c'est encore autre chose. Et en Hongrie, qu'ils occupent, ce sont des compromis, en fait, avec la population et les anciens nobles. Les villes hongroises gardent leurs institutions. Hein, c'est pas le cadi qui rend la justice. Les seigneurs hongrois qui sont remontés au nord, parce que la Hongrie, il y a toute une frange de la Hongrie qui reste au Habsbourg, au nord et à l'ouest, correspondant beaucoup à la Slovaquie actuelle. Mais les seigneurs hongrois continuent à prétendre toucher l'impôt de leurs anciens sujets.
Je vous propose maintenant qu'on se déplace vers Rome, parce que à Rome, les papes successifs maintiennent les feux de la puissance de croisade. Ils disent les pays de l'Europe, puisqu'on commence à utiliser le mot, doivent rester en paix. On doit chacun se réformer pour se tenir prêt à lutter contre le Turc. Et à chaque opportunité, Rome essaye de constituer des alliances plus ou moins durables pour lutter contre la sublime porte. Il y a la lutte sur la terre, c'est ce dont vous parliez. Il y a aussi la lutte sur la mer. Et là, c'est Venise qui, avec Rome, est motrice. Et en 1571, on va faire un pas de côté vers la Méditerranée. Un autre Habsbourg, celui qui siège à Madrid, accepte d'entrer dans une sainte ligue constituée par le pape. Il y aura beaucoup d'ambassadeurs dans les sons d'archives que nous entendrons aujourd'hui. Celui-ci vient au nom du pape à l'Escorial chez Philippe II.
Il y a des questions tragiques qui nous tourmentent, sire.
Il y a toujours des questions tragiques.
Chypre est tombée aux mains des Turcs.
Quoi ?
Si je suis venu en Espagne pour voir votre majesté, c'était avant tout pour vous dire combien la flotte vénitienne était faible. Les Turcs sont maîtres de nos mers.
De vos mers ? non des miennes.
La Méditerranée ne fait qu'une mer, Majesté.
Vous osez vous adresser à moi avant que j'aie fait état de votre présence ?
Majesté, mon secrétaire ignore peut-être le protocole, mais il sait fort bien la géographie. Cette victoire turque menace toutes nos nations, en particulier la vôtre, Majesté, car votre empire comprend de nombreuses populations mortes.
Mes morts me sont fidèles.
Mais si la flotte turque vient à s'approcher, pour qui prendront-ils parti ?
Je ne redoute pas les Turcs. Au moment propice, l'Espagne les expulsera de la Méditerranée, de l'Afrique septentrionale, de Byzance, de partout.
Je me réjouis de l'entendre, sire. Nous avons formé une sainte ligue. Venise et la papauté fournissent leur part d'hommes d'armes, de bateaux et de matériel. Tout est rassemblé à Messine, mais on n'y voit ni les drapeaux de l'Espagne, ni les bataillons de l'Espagne, ni les bateaux de l'Espagne. Où est le souverain le plus catholique de toute l'Europe ? Se demandera chacun.
Mais je consens à fournir pour ma part un quart des armes, des bateaux et des hommes.
Majesté, nous ne saurions accepter moins d'un tiers.
C'est fort bien, mais à deux conditions. C'est que l'Espagne recevra la moitié du butin de guerre. Et que mon frère Don Juan d'Autriche sera fait capitaine général de la Ligue et que chaque navire, chaque bataillon, chaque homme sera sous son commandement.
Enfin, le frère Don Juan, c'est le demi-frère de Philippe II. Extrait des Aventures extraordinaires de Cervantes, un film de Vincent Sherman, et en présence de Cervantes qui fait partie de la flotte de la Sainte Ligue. Une grande victoire est remportée en 1571 contre les Turcs au large de la Grèce, à Lépante. Et alors ça, c'est une explosion de joie. Je ne sais pas si elle concerne beaucoup l'Empire d'Autriche, mais est-ce que ce qu'on n'appelle pas encore l'Empire d'Autriche, le Saint-Empire romain germanique, mais elle concerne beaucoup l'Italie.
Oui, bon, ça concerne à mon avis tous les pays d'Europe. Hein. Tous les pays d'Europe ont été transportés par cette grande victoire remportée près de Patras, en fait, hein, par Don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles Quint. Et oui, bon, non, je pense
à Padoue,
que...
il y a un marchand qui devient fou, il prend un couteau, il démolit toute sa maison, et le lendemain, il est ravi, j'ai massacré tous les Turcs, dit-il devant les ruines de sa demeure.
L'imaginaire de la Sainte Ligue, et quelquefois ça va au-delà de l'imaginaire, se maintient d'ailleurs au-delà de Lépante, et à plusieurs reprises, on va reformer des ligues ou des sortes de croisades contre les Ottomans. C'est à la fois des ordres de chevalerie, c'est à la fois utopique et mystique, mais il n'empêche que ça se traduit aussi par la formation de bataillons, souvent sous la direction de princes italiens du nord de l'Italie, qui vont se battre en Hongrie à la fin du XVIe siècle. Et je peux dire aussi une chose, c'est quand même le pape à ce moment-là, le 7 octobre, après le 7 octobre 1571, la victoire de Lépante, va mettre la protection de cette croisade et de la chrétienté sous la protection de la Vierge, qui était d'ailleurs déjà fait, et instituer la dévotion au rosaire. Et c'est à partir de là qu'il y aura des confréries au rosaire dans toute la chrétienté catholique.
La Vierge, dont les pieds reposent sur le croissant, est-ce que c'est le croissant qui figure sur l'emblème du drapeau turc ? Tenez, à propos de croissant, et puisqu'on va parler dans la deuxième partie de cette émission qui nous mène au XVIIe siècle de l'autre ligue qui va amener à la levée du siège de Vienne, il faut quand même qu'on rappelle la légende selon laquelle le croissant serait né de l'intelligence des boulangers qui, voyant les galeries souterraines peuplées de Turcs menaçant les murs de la ville, ont sonné l'alarme. La viennoiserie, c'est la légende hein, qui dit ça, qui en est née, s'appellera le croissant. Ce qui explique le choix de cette chanson, je ne serais pas étonné, hein, de Pierre Dudan.
On arrive que c'est beau, voilà les vaches, les veaux et les oiseaux. Les prairies, les sapins et chaque matin. On prend le café, au lait, avec des gâteaux et des croissants chauds. Prendre le café, au lait, à ce que ça peut être bon, non, non, non. Par la fenêtre, on entend les cloches des vaches dans les champs. Au lait, vive le café, au lait. Dans la montagne, on entend les montagnards nous cantant. Iotlélie, au lait, yahoo!
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bon, on est dans une autriche de fantaisie, mais le sujet aujourd'hui, il est sérieux. Vienne et le Turc. Sultan échaudé ne craint pas l'eau froide. Après la défaite de Lépante, le sultan reconstitue sa flotte de galères. Mais c'est sur terre, peut-être, que les choses les plus importantes vont dorénavant se passer. La Méditerranée rapetisse un petit peu au XVIIe siècle. Marie-Elisabeth Ducreux, il faut que vous nous racontiez où on en est dans les années 1600. Quand le sultan reçoit un ambassadeur de la République de Venise, il ne veut plus lui donner de privilèges royaux, parce que le royaume de Chypre, dont Venise était héritière, a été conquis. Et quand le sultan reçoit un ambassadeur?
Un ambassadeur de l'empereur,
la maison d'Autriche, du Saint-Empereur romain germanique.
Il faut dire que le souverain qui règne sur ce qu'on appelle la monarchie des Habsbourg, c'est-à-dire l'Autriche, la Hongrie, ce qui reste de la Hongrie et de la Croatie, la Bohême-Moravie-Silésie, j'ai fait le tour à peu près.
Et il porte le titre de Saint-Empereur romain germanique.
Non, il est aussi l'empereur du Saint-Empire romain germanique, ça n'a rien à voir, ce sont des dignités qui se superposent, mais il l'est aussi. Et pendant tout le temps, sauf une fois au XVIIIe siècle. Les Turcs, je dois dire une chose. Il y a, les relations, disons, militaires, guerrières, entre les deux puissances, sont interrompues par des trêves. Ce sont pas des paix, ce sont des paix si vous voulez, mais ce sont des trêves qui sont négociées pour une partie, pour une durée plus ou moins longue. Et à la fin de chaque trêve, eh bien, on envoie une ambassade. Les souverains Habsbourg qui sont soit à Vienne, soit à partir de 1582 à Prague, Rodolphe II s'est installé à Prague en 1582, envoient une ambassade à Vienne. Mais pour le sultan, c'est une ambassade qui s'acquitte du tribut qu'il doit.
Ah, quand l'ambassadeur apporte des cadeaux, c'est,
oui,
c'est un tribut.
Oui, c'est ça, parce que pour les sultans ottomans, les Habsbourg sont des vassaux. L'empereur est un vassal. Enfin, et évidemment, ça n'est pas du tout le point de vue des ambassadeurs, ni de Ferdinand Ier, Maximilien II, Rodolphe II et leurs successeurs.
Alors voilà un envoyé de Rodolphe II chez le sultan Ahmed Ier. Alors là, il faut que je vous prévienne, Marie-Elisabeth Ducreux, instrumentalisation de l'histoire par les uns et les autres, nous sommes dans une série à succès de la télé turque de l'époque d'Erdogan. C'est une série de l'année passée qui s'intitule Sultan Kezem et qui commence à avoir son succès, qui est très avantageuse, bien sûr, pour le sultan.
Excellence, Adam von Herberstein.
Je suis Adam von Herberstein.
Comme im Namen Rudolfs.
Je suis l'envoyé de l'empereur des Romains, Rodolphe.
Wir kennen keine Imperator.
Nous ne reconnaissons pas d'empereur.
Bestimmt. Sie mochten König von Habsburg sagen.
Vous faites allusion au roi des Habsburg de Vienne.
Jedi iklimin padişahı.
Le représentant des sept climats, son excellence, le sultan Ahmed Khan, va vous recevoir. Attendez.
Warten Sie.
Sor bakalım derviş. Yıllardır ordumun kuşatmasında olan.
Derviş, demande-lui, ça fait combien d'années que nous assiégeons Vienne et que nous n'avons pas eu besoin de déloger le roi de sa forteresse. Que veut-il ?
Le roi Rodolphe demande que la guerre prenne fin.
C'est toujours la même demande. Est-ce que le roi accepte nos conditions ?
Vous voyez, il n'est plus que roi. D'ailleurs, il va finir la dernière année de son règne, reclus, séquestré, dans son château de Prague. Il faut qu'on dise quand même un mot de l'apaisement des tensions dans la première moitié du XVIIe siècle. Sur ce front-là, parce que il y a guerre intérieure, du côté des successeurs de Rodolphe.
Oui, alors justement, Rodolphe II n'a pas seulement terminé sa vie reclus dans son château de Prague, mais déchu de toutes ses couronnes, sauf la couronne impériale. Il reste empereur, mais il n'est plus ni roi de Bohème, ni roi de Hongrie. C'est son frère Mathias, qui, je ne peux pas raconter ça tout aujourd'hui, mais qui a réussi finalement à gagner non seulement la confiance, mais il a négocié la paix avec les... C'est lui qui a signé et négocié la paix avec les Turcs, justement, la paix de la longue guerre de 15 ans, qu'on appelle la longue guerre, que cet épisode que nous venons d'entendre prend place dans cette longue guerre, qui se termine en 1606. La paix est ratifiée une fois en 1606 à Jivatorok, et une autre fois, et ensuite à Vienne, en 1608. Avec comme corollaire, la ratification des libertés religieuses pour les Hongrois. Et ça, ils ont bien joué, je dois dire, de la querelle entre les frères Habsbourg pour transformer aussi les interprétations des droits, des libertés et de la légitimité par rapport aux souverains.
La guerre de 15 ans n'est rien à côté de la guerre de 30 ans dans laquelle les puissances chrétiennes vont s'engager au grand désespoir du pape qui voudra qu'elles soient en paix. Et ça va permettre aux Turcs, pense-t-on, de reprendre l'offensive. Ben non, parce que du côté turc, il y a des révolutions de sérail et une autre guerre symétrique, la guerre de la Sublime Porte et de la Perse. Donc le front qui nous intéresse aujourd'hui, Marie-Élisabeth Ducreux, il est plus calme dans la première moitié du XVIIe siècle et il va se réveiller dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et il va d'ailleurs y avoir de nouveau constitution d'une ligue et c'est comme ça qu'on va arriver à l'affaire qui nous concerne aujourd'hui, le fameux siège de 1683 de Vienne.
Oui, en fait, il s'est quand même déjà ranimé dans les années 1660, parce que justement, pour les Turcs, la trêve était terminée. Et, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a quand même la victoire de Saint-Gothard, la bataille de Saint-Gothard en 1664, qui sera assez décisive, d'ailleurs, pour la suite de l'histoire de la Hongrie et des relations avec les Habsbourg, et donc aussi qui amène jusqu'à la reprise de la guerre par Kara Mustafa en 1683 et le siège de Vienne dont vous venez de parler.
Ce siège de Vienne, ça se présente comment? Il est extrêmement dangereux pour l'empereur, à tel point que l'empereur et sa cour ont déménagé d'Ardar. La ville compte finalement peu de défenseurs. Elle a des fortifications qui peuvent être minées.
Elle a des défenseurs à l'intérieur de ces fortifications qui ont été extrêmement courageux parce qu'ils ont maintenu le siège, je crois, plus d'un mois.
Jusqu'au
2 septembre.
Jusqu'au début septembre.
2 septembre 1683. Et ils ont résisté jusqu'au bout, alors que les Turcs avaient miné, comme vous l'avez rappelé au début de cette émission, les fossés. Le fossé entourant les fortifications.
Heureusement, les boulangers étaient là. Pardon, ça, c'est de la légende.
Voilà. Mais, et comme vous l'avez dit aussi, c'est une sortie de Jean Sobieski, le roi de Pologne.
Alors ça, on va l'expliquer.
Oui.
Il faut dire que des renforts étaient attendus. Ces renforts, c'était des Hongrois. Il y avait en fait des Hongrois.
Il y avait de l'autre côté des Hongrois aussi, oui.
Et puis, des Polonais menés par le nouveau roi de Pologne, qui avait été élu quelques années auparavant, parce qu'en Pologne, les rois étaient élus, il s'appelait Jean Sobieski. Dernière archive sonore, c'est un documentaire d'Arte de Stéphane Köster. Toujours des envoyés. Alors, ceux-ci, ce sont des envoyés des défenseurs de Vienne qui essayent de rejoindre l'armée de renfort qui est là à quelques kilomètres, mais les sépare évidemment les troupes ottomanes.
Le 12 septembre 1683, tous nos espoirs furent anéantis. Les sapeurs turcs avaient réussi à percer une brèche importante dans le bastion principal. Seules les troupes de la Sainte Ligue pouvaient encore sauver Vienne.
Si l'Alliance n'attaque pas aujourd'hui, nous sommes perdus. Ce n'est plus qu'une question d'heure, je le crains. Mikhailovitz.
Oui.
Transmettez ce message à nos amis.
Êtes-vous le duc de Lorraine?
Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il?
Votre Excellence. J'ai un message urgent à remettre au commandant en chef des troupes de l'Alliance. J'arrive de Vienne. C'est un ultime appel au secours.
Le roi de Pologne est là-bas.
On me renvoyait au roi de Pologne, Jean Sobieski, qui détenait le haut commandement sur les armées alliées.
Le comte Starhemberg nous avertit qu'il ne pourra plus tenir la ville très longtemps. Il écrit que ce n'est plus qu'une question d'heure.
Dans ce cas, il n'y a plus à hésiter, informons Starhemberg que nous avons pris le Mont Chauve et que nous sommes prêts à l'offensive aujourd'hui.
Très bien.
Allumez les torches, on lance le signal.
Voilà, et on déclenche l'attaque par les renforts. On dit que les ailes que portaient sur leurs uniformes les cavaliers polonais les faisaient ressembler à des nuées d'anges, parce que l'empereur doit beaucoup au roi de Pologne. Il est assez ingrat, d'ailleurs.
C'est-à-dire que les relations avec Jean Sobieski et Léopold Ier n'étaient pas très bonnes. Il y a eu une alliance, mais après, d'ailleurs, il n'a pas été le seul à remporter la bataille. C'était quand même une coalition. On a entendu parler du Charles du duc de Lorraine, mais il y avait des représentants aussi des bataillons venant de l'Empire. Il y avait le Louis de Bade, la Turquen-Louis, on l'appelle le Louis Turc, le Louis des Turcs, et il y avait, bon, c'est vraiment un événement, c'est vraiment une coalition.
Enfin, le roi de Pologne qui commandait l'armée de renfort, il est congédié au bout d'une semaine de Vienne.
C'est sa sortie qui a été décisive, mais ça lui a pas été reconnu à part la suite. Quand vous voyez l'iconographie de la prise de Vienne, sont mis à l'honneur les généraux allemands, le duc de Lorraine et Jean Sobieski dans l'Empire, enfin par l'iconographie, disons, inspirée par la cour de Vienne.
Alors justement, ce qu'il faut pour conclure et que nos auditeurs voient bien le changement de statut des souverains de Vienne, ils vont devenir à partir de ce moment-là les souverains d'un nouvel empire, d'un empire qu'on peut appeler l'Empire d'Autriche, qui va récupérer le territoire et les symboles de la Hongrie. Et le statut de Vienne, qui était une ville frontière, en est transformé parce qu'elle devient ville carrefour.
Oui, en fait, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est la reconquête la levée du siège de Vienne, la victoire à Vienne, va entraîner la reconquête de la Hongrie, avec quelques échecs, hein, quelques dates. 1684, la reprise d'Estergom. Ensuite, en 1686, la reprise de Bouda. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Le verrou, c'est comme un verrou qui saute. Et ensuite, progressivement, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, ils vont reconquérir tout le territoire, je ne parle pas de la Transylvanie qui est une principauté à part, mais aussi la Transylvanie en 1699 va être attachée à un gouvernement direct de Vienne. Donc le prince de Transylvanie, ça sera l'empereur. Et plus tard, ça sera, le Banat sera... Il n'y aura pas de prince.
Qu'est-ce que c'est le Banat ?
Le Banat, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est la région de Timișoara. Mmh. Hein, c'est-à-dire à la fois, aujourd'hui, c'est en Yougoslavie et en Roumanie. Et qui, lui, va être dirigé directement de Vienne, sans être mis à la Hongrie comme elle le réclame, parce que tous ces pays faisaient partie de l'ancien royaume de Hongrie qui était gigantesque. Donc, la Hongrie va se reformer beaucoup plus, dans un certain sens, en intégrant tous les territoires qui étaient occupés par les Turcs, sans la Transylvanie, sans le Banat. Et du coup, c'est effectivement l'équilibre de la monarchie qui va changer et qui va permettre finalement à... comme c'est une interprétation assez classique de l'historiographie autrichienne, mais c'est vrai qu'il va transformer l'Autriche en grande puissance européenne.
Vienne, ville frontière ou Vienne, ville carrefour, c'est une problématique que l'on retrouve dans les débats politiques d'aujourd'hui. Merci à vous, Marie-Elisabeth Ducreux. L'émission était préparée par Franck Olivard, Clara Garçon, avec le concours d'Ayati Bazarslan. À la technique, c'était Kevin Pelot et à la réalisation, Jacques Sigal. À votre programme, cher Mathieu.
Oui, les algorithmes, ces milliards de calculs et de données qui se sont invités dans nos vies privées, Jean.
Et puis, les 14h, vous écoutez France Inter. Si vous vous reportez sur notre site, vous trouverez toutes les indications pour nous rejoindre, si vous le souhaitez, au Vieux Colombier, lundi 30 à 20h, où nous proposons une nouvelle restitution de débats parlementaires.